champion du monde. Geneviève Delru, Corinne Mondjou.
Le synode des évêques pour l'Afrique qui s'ouvre ce dimanche à Rome, c'est le dossier de cette deuxième partie de Religion du Monde. Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, c'est le thème de ce synode qui en est à sa deuxième édition. Une rencontre qui est censée poursuivre la réflexion initiée en 1994, il y a 15 ans, lors du premier synode autour du pape Jean-Paul II. Pierre-Yves Péqueux, directeur du service national de la mission universelle de l'Église, connaît bien l'Afrique pour y avoir vécu pendant de nombreuses années. Geneviève Delru lui a tout d'abord demandé quels sont les grands enjeux de ce synode.
Depuis 1994, on n'a pu que constater de grosses difficultés sur l'Afrique, en particulier l'Afrique centrale. L'ensemble des problèmes liés au Rwanda, Burundi et Congo démocratique. Mais vous avez aussi tout ce qui a été autour du Darfour et du Soudan, la Corne de l'Est, les problèmes de Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, et puis aujourd'hui les questions autour de Madagascar. Donc une Afrique qui a du mal à se stabiliser, une Afrique qui se cherche vraisemblablement, une Afrique qui cherche aussi ce que veut dire démocratie à l'africaine. Nous projetons peut-être trop facilement la démocratie à l'européenne. Et face à ça, eh bien, je crois que l'Église a été amenée à rappeler d'abord son message de paix, sa disposition et sa disponibilité pour les médiations, pour permettre que des hommes et surtout des responsables se parlent. Pour rappeler aussi que les petits sont toujours les victimes et que les pauvres sont dans toutes ces situations de tension, ceux qui sont les plus brimés.
Dans ce paysage, finalement, c'est l'Église qui fait figure de pôle de stabilité.
Oui, l'Église catholique sûrement, les Églises en général, car je crois que les préceptes évangéliques, et en particulier de réconciliation, de justice, de paix, sont partagés par les Églises et qu'elles ont ce souci et cette volonté d'être artisans de paix. Ce n'est pas le plus facile. Mais quand je vois le développement en particulier des commissions justice et paix, qui sont les fruits du Concile Vatican II, je vois qu'il y a une prise de conscience chez beaucoup de chrétiens que c'est aussi par eux que l'avenir passera.
Justice et paix est particulièrement présente en Afrique.
Ah oui, très présente et dans la vie des diocèses et dans les vies nationales. Justice et paix travaille, je crois, en profondeur à deux niveaux. À une formation des chrétiens et à un autre niveau qui est le niveau plus relationnel avec les institutions.
Alors donc vous évoquiez il y a quelques instants la parole de l'Église. Parfois cette parole est absente également.
Oui, ça peut arriver parce que l'Église a aussi ses faiblesses et ses compromissions. Mais je crois que quand on regarde les grandes négociations nationales de ces dernières années, l'Église y était très présente.
Vous pensez à quel pays ?
Je pense à des pays comme le Bénin, à des pays comme la République démocratique du Congo, à une période à Madagascar. Aujourd'hui, l'Église recherche sa place, les Églises recherchent leur place aujourd'hui. Il est vrai que c'est toujours un peu risqué, mais au nom de l'Évangile, il faut prendre des risques.
Par exemple, à l'Église gabonaise, on ne l'a pas particulièrement entendu ?
Pas particulièrement, c'est vrai. Et pourtant, si l'on relit les textes de Benoît XVI lors de son voyage au Cameroun et en Angola, je crois qu'il donnait vraiment les signes de la nécessité de s'engager pour une véritable recherche d'un avenir équilibré dans un certain nombre de pays.
Alors, en 10 ans, donc, l'Afrique a bougé, vous le soulignez, en bien d'ailleurs aussi, il y a les effets de la mondialisation. On peut les voir aussi bien au niveau de l'économie, de l'exploitation des matières premières, que d'Internet.
Oui, ça, il est vrai qu'il n'y a pas de frontières pour ces questions et que tout ce qui est lié à l'économie mondiale, aujourd'hui, l'Afrique, à la fois en bénéficie et en souffre. En bénéficie parce qu'elle a accès à tous ses moyens. Elle en souffre parce qu'elle n'en a pas obligatoirement la maîtrise et les capacités de financement. Les questions médicales, les questions de santé aujourd'hui sont des questions très lourdes pour l'Afrique et que la question des médicaments et des médicaments génériques est une question cruciale dans un continent où les endémies sont lourdes que ce soit le paludisme, la tuberculose, le sida, il y a là de quoi se préoccuper pour l'avenir. Et l'Église, là aussi, est engagée dans le domaine de la santé.
Est-ce que l'on peut dire que le précédent synode, donc qui s'est tenu en 94, a à peu près abouti à ce qu'il avait annoncé?
C'est peut-être difficile de dire aboutir, parce qu'il était très large, et il avait aussi un certain nombre de questions qui n'ont pas été vraiment abordées. Ce que je constate sur ces 15 années, d'abord c'est un développement de l'Église. Le nombre de baptisés, le nombre d'ordonnés croît d'une manière très régulière, et quasiment dans tous les pays. Ce qui pose peut-être question, c'est les questions de formation et le manque de formateurs. Les séminaires sont pleins, mais les équipes de formation sont quelquefois un peu limitées et un peu justes. Et là, il y a une vraie question pour l'Église, car elle ne peut se développer que si la formation y est sérieuse.
Pas assez d'argent. C'est le nerf de la guerre, là.
Oui, mais ça c'est clair. Il est clair que beaucoup d'Églises ont le souhait d'un autofinancement et d'une auto-prise en charge de leurs moyens à tous les points de vue. Mais il faut être lucide. Comme beaucoup de pays d'ailleurs, les églises vivent aussi des demandes extérieures. Mais en même temps, je crois qu'il est de la responsabilité de l'Église universelle et de nos églises d'Europe de continuer de soutenir. C'est une question de vie ou de mort pour certaines églises.
Dernier point de ce synode, plus de 200 évêques, a priori autour de 250, donc vont se rencontrer pendant 3 semaines. Ça, c'est quelque chose d'important, ça n'arrive jamais pour les évêques d'Afrique de se retrouver ensemble.
Les évêques d'Afrique ont, dans le cadre du CHEAM, c'est-à-dire du secrétariat des épiscopats des conférences d'Afrique et de Madagascar, l'occasion de se retrouver. Là, il s'agira de délégués élus, qui, au nom de leur conférence épiscopale, vont apporter la part de réflexion de leur Église nationale. Et cette forme de synode à 250 peut être une façon de voir et de penser un avenir. Pour moi, la forme synodale me paraît intéressante si elle est vécue dans la liberté et dans la confiance.
Dans le thé ?
Parfois, on peut avoir des questions.
C'était Pierre-Yves Péqueux. Des questions avant ce synode, tout le monde s'en pose, à commencer par les églises du continent. Nous avons rencontré des prêtres africains à Paris qui fondent beaucoup d'espoir sur cette rencontre de Rome. Le père Angelbert Meyongo est du Cameroun.
D'abord, il faut dire que la communauté africaine, à juste titre, se pose la question pourquoi un deuxième synode alors que la réception du premier synode n'a pas encore été faite. Mais je pense qu'il y a urgence et les autorités ecclésiastiques ont bien compris qu'il y avait urgence et c'est la raison pour laquelle ils ont organisé un deuxième synode. Alors qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de ce synode? Il faut dire tout de même, et ça c'est clair, que dans notre tradition africaine, nous savons bien que les problèmes se résolvent toujours au niveau de la palabre africaine. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'Afrique a beaucoup à attendre de ces synodes des évêques à Rome.
Et quand vous dites que le premier synode n'a pas été reçu encore, il y a 15 ans quand même que le premier synode a eu lieu.
Il y a 15 ans, effectivement, vous savez, je parle du synode, je peux parler aussi du concile. Le concile a eu lieu il y a longtemps et la réception se poursuit en ce moment. Il y a une telle richesse dans les synodes et les conciles que ça prend toujours du temps pour que la réception se fasse de façon pleine. Mais entre-temps, il y a des questions d'importance et des questions d'urgence qui se posent, et des questions auxquelles il faut donner des réponses. Et d'ailleurs, le thème du synode, c'est celui de la réconciliation. Et vous savez, dans notre tradition africaine, que la réconciliation se fait justement autour de toutes les forces vives.
Et qu'est-ce que l'Afrique concrètement peut attendre d'une telle rencontre?
L'Église africaine a, comme je disais, beaucoup à attendre du concile. D'abord, dans un premier temps, tout l'aspect de la réconciliation. Vous savez, l'Église, c'est l'experte en humanité. Et donc, il n'y a pas d'humanité réelle si elle n'est pas debout. Donc, si elle n'est pas en paix. Donc, il y a une question de paix qui se pose aussi bien au niveau civil qu'au niveau religieux. Il y a donc urgence que la résolution de ces conflits, qu'elle se fasse non pas de façon verticale, mais de façon horizontale. Et c'est ça tout le sens du synode, avancer tous ensemble. L'Église aura beaucoup à apprendre de ce modèle de résolution des conflits qui consiste justement à ce que le pouvoir ne soit plus entre les mains de quelques hommes, mais plutôt que la parole soit partagée et que le pouvoir soit également partagé.
Quels sont les principaux problèmes qui se posent aujourd'hui à l'Église africaine, et plus particulièrement à l'Église du Cameroun, votre pays d'origine ?
Les problèmes tournent autour de la paix. Et la paix qui n'est pas simplement une question externe à l'humanité, mais d'abord interne. L'Écriture nous dit que c'est du cœur de l'homme que viennent tous les conflits. Et donc, il y a une urgence de résolution de ces conflits, de ces problèmes de paix. Il y en a également d'autres. J'ai parlé tout à l'heure de la question de l'autorité et du pouvoir. Et justement, ce problème se pose aussi bien dans les milieux ecclésiastiques que dans les milieux civils. Et toute la question pour nous aujourd'hui, c'est de se dire que l'Africain a toujours une tradition synodale qui lui permet justement de comprendre que le pouvoir et l'autorité sont deux entités, d'abord qui se complètent, parce que l'autorité c'est ce qui élève l'homme et que l'autorité a besoin d'un pouvoir. Et de ce point de vue-là, il y a besoin pour nous de comprendre que toute autorité est un bien familial qui se partage, parce que nous avons une tradition familiale qui est très très forte.
Pour en revenir au Cameroun, lors de son dernier voyage au Cameroun, le pape Benoît XVI a rencontré les prêtres et les évêques camerounais, et il a été question de la corruption au sein de la société camerounaise, mais aussi au sein de l'Église. Est-ce que vous pensez que c'est un thème qui peut être débattu pendant ce synode ?
C'est un souhait partagé par tous, hein. Et puis que ce ne soit pas que des vœux pieux, qu'il y ait des commissions qui étudient ces questions de façon beaucoup plus sérieuse, et puis en coordination avec les autorités civiles, et qu'en aval, que ces commissions ne restent pas à Rome par exemple, mais que ça se poursuive dans nos différentes nations, dans nos différents pays et dans les différentes églises. Donc mon vœu au fond, c'est que vraiment ces problèmes quotidiens, que ces questions primordiales fassent partie effectivement du projet final du synode africain.
Et le célibat des prêtres ?
Le célibat des prêtres, c'est une discipline ecclésiastique
qui est respectée en Afrique, selon vous ?
Qui est respectée autant que faire se peut en Afrique. Alors, nous sommes des humains, de temps à autre, il y a des chutes, et l'essentiel, c'est qu'à chaque fois qu'on se relève.
Le père Émile Sekbedji est, lui, originaire du Togo. Il met l'accent sur la notion de service, l'Église au service de la société.
Alors, si je dois dire ce que je peux attendre de ce synode, je partirai simplement du thème choisi, l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Alors, c'est un appel lancé à l'Église en Afrique, mais appel de ce savoir au service. Je voudrais insister sur ce mot service, être au service. Eh bien, réconciliation, justice et paix sont des valeurs au service desquelles nous devons nous mettre. Ça suppose qu'il y a de réels problèmes de réconciliation. Et là, on le sait. Donc c'est un appel qui nous est lancé, je me dis par Dieu, mais aussi en même temps un appel que nous nous lançons en acceptant ce thème. Alors je souhaiterais que cet appel-là soit entendu à l'issue des travaux de ce synode. Alors que ce synode puisse vraiment contribuer à la mise en œuvre de ces paramètres essentiels que sont la réconciliation, la justice et la paix.
Quels sont les problèmes qui se posent à l'Église au Togo dans votre pays, d'après vous ?
Le problème social est là en tant que tel qui affecte en même temps l'Église, parce que la société est composée des membres de l'Église. Bon, problème de la justice, oui, il y en a. L'injustice, déjà au sein de l'Église, mais aussi au plan social, civil, politique, il y en a. Déjà, c'est des problèmes réels et qui demandent à ce qu'il y ait une prise de conscience comme telle, des faits, et de savoir les dispositions qu'il faut prendre pour remédier à cela. Donc, les injustices, la corruption qui fait reculer nos pays ou fait piétiner vraiment nos pays, qui gangrène justement la société civile et qui affecte aussi l'Église comme telle. Le synode est une recherche d'ensemble. Alors, il va falloir qu'il y ait cette approche de collégialité-là et qu'il y ait cette solidarité qui puisse jouer pour résoudre les problèmes dans l'un ou l'autre pays.
Albert Gandounou est béninois, écrivain, 4 ouvrages à son actif, 2 essais et 2 pièces de théâtre. Enseignant à l'Université nationale du Bénin, il est aussi président de Chrétiens au pluriel pour changer le monde. Cette association qu'Albert Gandounou a créée en 1997 œuvre concrètement à travers des rencontres mensuelles dénommées Café Rencontres, des réunions pour voir ensemble comment les chrétiens peuvent aider à résoudre les problèmes qui se posent à la société. Ce chrétien engagé est lucide sur l'Église catholique en Afrique et se montre dubitatif sur l'issue de ce synode. Albert Gandounou.
Normalement, il y aurait tout à attendre d'un synode de l'Église catholique vu son poids dans nos pays. Mais on a comme l'impression que l'Église est empêtrée dans ses propres contradictions et ses propres logiques. Et l'Évangile, qui est de la plus brûlante actualité et de la plus grande urgence en Afrique, attend que finalement l'Église sorte de tout ça, justement pour que ce soit l'Évangile qu'on mette en avant, parce que la plupart des problèmes qui se posent, on se rend bien compte que si on revenait au fondamental de l'Évangile, qui est la miséricorde, eh bien, on verrait bien que nous sommes tous en deçà du principal message que nous servons. Alors, j'entends par miséricorde se battre pour les pauvres dans un engagement qui ne laisse pas aussi tranquille. Parce que je regarde la hiérarchie de l'Église et tout ça, on compose plutôt avec l'ordre qui est en place, alors que l'Évangile devrait conduire à la transformation de la société. Et nos sociétés ont besoin de cette transformation. Et c'est un peu ce que le mouvement chrétien pour changer le monde depuis 1997 essaye de faire exister en Afrique et pas seulement au Bénin. Et nous, on pense que nous sommes dans un monde d'une très grande abondance, d'une abondance qu'on n'a jamais réalisée. Et on se dit, mais on doit travailler pour le partage, on doit travailler pour que tout le monde trouve son compte dans ce monde qu'au fond nous avons tous construit ensemble. Et je ne vois pas d'autre que des chrétiens pour le dire le plus fort possible en Afrique, empêcher toutes les prédations dont nous sommes victimes, tous les détournements de fonds dont nous sommes victimes, faire en sorte que tous les fonds planqués ça et là dans les paradis fiscaux à l'étranger nous reviennent pour que notre pays, nos pays se développent. Bon, dans ce combat-là, l'Église n'est pas à l'avant-garde en Afrique. Elle est très traditionnaliste, bon, elle a plein de contradictions internes qu'elle essaye de résoudre. Et donc finalement, on la trouve de temps en temps au service d'une certaine paix qui n'est pas la paix de l'Évangile. La paix de l'Évangile va de pair avec la justice. Et je pense que l'Afrique entière attend que l'Église soit davantage porteuse de l'Évangile.
Pour revenir à la situation spécifique du Bénin, votre pays, quels sont les autres problèmes vraiment spécifiques à l'Église au Bénin ?
Au Bénin, comme partout ailleurs, le célibat des prêtres, par exemple, c'est une façade. Et cette exigence n'est nulle part dans l'Évangile. Et donc, s'il y a plein de problèmes autour de ça, par exemple. Bon, c'est une des contradictions dans lesquelles s'empêtre l'Église et au Bénin, finalement, on laisse faire, tout le monde se comprend et puis il n'y a pas de problème.
Est-ce à dire que les prêtres africains ne respectent pas complètement le célibat?
Mais c'est ce que je veux dire et ça ne pose pas de problème parce qu'on comprend bien cela dans l'environnement. Ça ne sert pas la cause de l'Évangile, en fin de compte. Cette compréhension même, pour moi, est dangereuse, quoi. On ne doit pas s'en contenter parce que ça veut dire que quelque chose ne passe plus. Finalement, la réalité est acceptée et tout le monde y trouve son compte et ça n'est pas porteur donc de transformation.
Ce problème, il se pose pas simplement au Bénin. Je pense que dans d'autres pays africains aussi, le problème du célibat des prêtres se pose.
Oui, ce que je remarque en Afrique, c'est que ce n'est même pas vécu comme un problème qui se pose. Parce que bon, on fait avec ça, on sait contourner ça. Et ça, c'est ça qui me préoccupe. Je trouve que c'est plus grave que quand on en fait l'objet d'un combat ouvert, comme c'est le cas souvent en Europe dans les lectures que je fais sur cette question, où on milite vraiment pour que progressivement on tourne cette page-là et qu'on revienne encore une fois aux fondamentaux de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui ne focalise pas tout sur le sexe, etc., mais sur finalement l'ouverture qu'on doit avoir aux autres et qui parfois peut conduire au sacrifice de soi.
Et vous comptez sur le synode, par exemple, pour soulever ces questions officiellement?
Je ne suis pas sûr, parce que ces rencontres sont bien cadrées. Il y a une hiérarchie de l'Église qui a son point de vue sur les choses et qui prend les précautions nécessaires pour que finalement il n'y ait pas ce qu'on pourrait appeler des dérapages, pour que finalement on reste dans la ligne Et ça aussi, c'est une présenteur. On peut se demander jusqu'à quel point l'Afrique véritable sera présente à ce synode. Parce que, bon, c'est notre Église, on sait bien comment elle ne laisse rien au hasard. Et on peut aller dans des directions qui, somme toute, ne sont d'aucune urgence pour l'Afrique. C'est à craindre.
Vous n'attendez pas de changement pour l'Afrique à ce synode?
À ce synode, mais il y aura d'autres synodes et je suis sûr que l'Église procédera à tous les changements, à toutes les adaptations qu'appelle notre monde d'aujourd'hui et finira par passer au service de l'Évangile. En Afrique, elle est encore trop tributaire de son passé sous la colonisation, etc. Donc, il y a trop de prestige, il y a trop de flanchons encore, alors que la pauvreté évangélique nous libère et nous met au service de la vérité, de la justice, tout simplement.
C'était Albert Gandonou. Ecclesia in Africa à la lumière de l'esprit d'Assise. Essai de lecture du premier synode pour l'Afrique en marche vers le second. C'est le titre de l'ouvrage de notre confrère Jean-Baptiste Sourou, paru aux éditions L'Harmattan. Jean-Baptiste Sourou est journaliste à Radio Vatican et enseignant à l'Université Pontificale Grégorienne de Rome. Par ce livre, Jean-Baptiste Sourou veut rappeler que la rencontre qui s'ouvre aujourd'hui à Rome n'est que l'approfondissement de la réflexion initiée autour du pape Jean-Paul II il y a 15 ans par le premier synode spécial des évêques pour l'Afrique.
Ecclesia in Africa à la lumière de l'esprit d'Assise, c'est un effet de lecture pour relancer une expérience que les synodaux en 1994 ont vécu à Assise autour du tombeau de Saint-François. C'est-à-dire que pendant le synode, les pères synodaux sont venus à Assise pendant 48 heures pour prier, réfléchir surtout autour des questions de paix, des questions de réconciliation, des questions de justice, et voir comment ils pourraient s'inspirer de l'expérience spirituelle de Saint-François d'Assise pour retourner chez eux et, à partir de là, revivre un nouveau élan pour l'évangélisation en Afrique. Donc, au moment où un nouveau synode pointe à l'horizon, c'est donc pris cette expérience des pères synodaux à Assise et le document post-synodal Ecclesia in Africa qui a été publié par Jean-Paul II pour faire une relecture afin que les pasteurs de l'Église en Afrique ou les chrétiens en Afrique reprennent eux aussi en main cette expérience spirituelle forte que les pères synodaux ont vécue à Assise.
Quel éclairage ce que vous appelez l'esprit d'Assise peut apporter à l'Église d'Afrique aujourd'hui?
Il y a beaucoup de choses dans mon livre. Je prends la notion de base que le synode de 1994 a retenue, Église comme famille de Dieu en Afrique. Et j'essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une famille grandisse. Il faut qu'il y ait de l'entente. Il faut que les gens puissent dialoguer. Il faut qu'une famille puisse être ouverte, accueille les autres, dialogue à l'intérieur comme avec l'extérieur. Qu'une famille soit toujours en formation. Il y a tellement d'éléments de la spiritualité de Saint-François qui peuvent aider l'Église en Afrique dans son travail d'actualisation et de réalisation de tout le projet pastoral et spirituel et même des ambitions que Ecclesia in Africa a pour l'Église qui est en Afrique. Il s'agit par exemple du domaine du dialogue interreligieux, du dialogue avec la religion traditionnelle africaine, des problèmes de la réconciliation, parce qu'une famille aussi doit se réconcilier.
Cette année, le thème du deuxième synode tourne encore autour de la réconciliation, de la justice et de la paix. Est-ce à dire que le premier synode n'aura pas été entendu?
Non, le premier synode a été entendu. Et Ecclesia in Africa est en train d'apporter beaucoup de solutions, est en train d'apporter comme un ferment dans les communautés catholiques en Afrique. Si on tient compte, par exemple, de ces petites communautés ecclésiales vivantes qui sont en train de semer une certaine solidarité entre les chrétiens de même quartier, par exemple, dans certaines villes en Afrique, où les chrétiens davantage se connaissent, arrivent à prier autour de la parole de Dieu, on n'est pas seulement chrétien à l'église, mais on se retrouve dans un même quartier. Ça, ce sont des exemples. Les commissions justice et paix qui sont nés à partir de Ecclesia in Africa. Vous voyez, et puis tout le travail qui est en train de se faire autour de la théologie aussi, dans les universités, partout dans les instituts. Moi, je considère le synode qui va s'ouvrir prochainement comme le synode de l'âge adulte de l'Église en Afrique. Si le premier synode, celui de 1994, a permis à l'Église en Afrique de retrouver son baptême pour dire « Église en Afrique, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Maintenant, le moment est venu pour dire « Comment est-ce que tu peux t'engager dans le concret ?» Parce qu'on ne reçoit pas le baptême pour le recevoir. On reçoit le baptême pour que le chrétien qu'on devient puisse devenir vraiment sel de la terre et lumière du monde. Donc, pour qu'on puisse, comme chrétien, illuminer les réalités et apporter cette joie, apporter cette paix, apporter cet esprit de solidarité un peu partout. Donc, ce synode est important pour un engagement plus fort, plus concret encore de l'Église en Afrique.
En somme, c'est le synode de la maturité.
C'est le synode de la maturité.
Alors, ce sera ma dernière question. Quel est le principal problème de l'Église en Afrique aujourd'hui, d'après vous ?
Ce principal problème pour nous aujourd'hui est comment témoigner de notre baptême. L'Évangile, le Christ fait de l'homme africain un homme debout qui ne vit pas dans le désespoir, mais qui regarde les souffrances d'aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui, avec l'espérance qu'il peut s'en sortir. C'est cela qui manque un peu quelque part dans ce continent. Il faut vraiment que nous travaillions sur cela, que l'homme africain soit debout.
C'est la fin de cette émission présentée par Corinne Manjou et Geneviève Delru. À la réalisation, Marie-Hélène Rollin. À la technique, Pierre Billot. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain.